J'ai le temps du bonheur.
Yes, you whistle a bit, yes.
Sometimes.
Sometimes.
Depends. Some days, yes. Sometimes,
today. Okay, no. Today, yes.
Today.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en position.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Lorsqu'un grand acteur américain débarque à Paris pour la promotion de son film, en général, il reste cloîtré 24 heures dans son 5 étoiles à répondre un peu mécaniquement parfois et pour quelques minutes seulement aux questions des journalistes français. Lui est sorti de sa zone de confort pour nous rejoindre dans nos studios et nous accorder le temps qu'il fallait. Mais ce n'est pas un grand acteur américain comme les autres. C'est Willem Dafoe sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine et bienvenue à nos 1 800 000 auditeurs.
Oui.
S'il vous plaît, merci à eux.
120 films en 40 ans, depuis La Porte du Paradis de Michael Cimino jusqu'à celui-là. Tommaso, sa 5e collaboration avec Abel Ferrara. Dafoe y incarne une sorte de double du cinéaste américain, un artiste vivant à Rome comme lui, ancien junkie comme Ferrara, en couple et luttant contre quelques démons dont celui de la jalousie. Nous avons rencontré donc Willem Dafoe et évoqué avec lui ce film bien sûr, mais aussi sa méthode de jeu, son statut ou ses expérimentations parfois extrêmes avec les cinéastes. Généreux et ambitieux dans la pratique de son métier, artisan plutôt que star, Willem Dafoe est notre invité unique et Tommaso est sur les écrans depuis le 8 janvier. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de 1917 au film à sketch Selfie et entre les deux, System K, Swallow, l'Apollon de Gaza ou Marche avec les loups, eh bien, c'est parti.
You know, and we're making this movie in Miami. At a time that Miami's like the nightlife's exploding, and I just made a movie. I don't have my regular people with me. I'm going to make a movie that's going to be the first video movie shot with a video camera. I'm feeling really like it's I'm it. You know, I'm my ego is like I'm going to do this thing, and not only I'm going to make a remake of La Dolce Vita.
Dans Tommaso d'Abel Ferrara, il incarne un artiste à Rome en train d'écrire son prochain film et en luttant contre ses démons. Comme un double du cinéaste indépendant américain avec lequel Dafoe signe, on pourrait même dire, co-signe ce film comme les 4 autres qu'ils ont fait ensemble, Neurose Hotel, Go-Go Tales, 4h44, Dernier Jour sur Terre et Pasolini. Willem Dafoe, je le disais, 120 films en 40 ans depuis ses débuts dans La Porte du Paradis de Michael Cimino en 80. Et depuis cette date, une série d'étonnantes collaborations avec de grands cinéastes. On va écouter un petit aperçu de sa carrière avec ce mix pour visualiser la diversité de ses rôles et l'étendue de son talent. Dans l'ordre, le soldat angélique de Platoon d'Oliver Stone, le psychiatre tourmenté chez Lars von Trier Antichrist, la voix du rat dans Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, Pasolini et chez Ferrara ou le flippant Bobby Peru dans Sailor et Lula.
Lieutenant, why the fuck didn't you do something?
What are you talking about?
You know what the fuck I'm talking about.
No, I don't.
Tell me what you think is supposed to happen in the woods.
Where are you?
Woo-wee! Look at you, girl. You're still as fine-looking as a creme brulee.
Am I being flirted with by a psychotic rat?
Excuse me.
Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue?
They still insult me.
Ça vous cause un certain plaisir?
I don't refuse it because I'm not a moralist.
You want me to do it? Just a simple yes or no. Just feel me breathing on you. And you know I mean business when it comes to fucking...
Get down!
Bobby Peru, grab you. Hold you tight. feel everything inside, yeah? Be quiet. Say fuck me. And I'll leave.
No, I get...
I'll tear your fucking heart out, girl! Say fuck me. Say fuck me. Say it.
Someday, honey, I will. But I gotta get going.
Inquiétant ou magnifique, autant de registres pour Dafoe qui alterne second et premier rôle, grand écart entre films à gros budget, Le Bouffon Vert dans les Spider-Man chez Sam Raimi par exemple, ou Expérimentation chez Cronenberg ou Paul Schrader, et plus récemment Gérant de résidence dans le très beau Florida Project ou Gardien de phare aux côtés de Robert Pattinson dans Lighthouse. Oui, Dafoe expérimente depuis le théâtre expérimental, justement, avec lequel il a démarré à New York, venant d'une petite ville du Wisconsin, qui avait aussi vu naître le sénateur anticommuniste McCarthy, ou Houdini, le grand illusionniste, comme il aime à le rappeler. Dafoe, donc, à l'affiche de ce nouveau film signé Abel Ferrara, Tommaso, c'est lui, artiste à Rome, avec sa femme et sa petite fille, entre l'écriture d'un nouveau film, son cours de théâtre, ses séances de yoga ou ses réunions aux addicts anonymes. Comme un portrait en creux de Ferrara, lui-même revenu de ses addictions, voici Willem Dafoe et son interprète Xavier Combes.
I hear that there's a rehab place in this hospital on the third floor, and it's kind of a lockdown, like only family can come. So I go into rehab. You know, but I have no intention of getting sober, none at all. I mean, this, all this shit happens. I almost die, you know. Still, I don't get the idea that, you know, what I'm doing is a problem.
Bonjour, Willem.
Bonjour.
Ferrara est le seul à vous faire participer autant au processus créatif d'un film.
I would say that's true.
Oui. C'est juste.
Because how he's making films now.
Cela résulte de la façon dont il fait ses films désormais. C'est vrai que j'arrive à travailler avec Abel comme avec personne d'autre. Abel m'implique très tôt dans le processus et ne travaille pas de manière conventionnelle. S'agissant de Tommaso, fait l'objet d'une sortie ici en France, on travaille à partir du scénario. Donc il met en place une situation, il me dit ce qu'il en pense, et puis ensuite, on tourne la scène. Il n'y a pas de dialogue écrit. Dans un autre, il y a des indications qu'il me donne. Il me dit, je veux faire ceci, je veux que dans la scène, il se passe cela. Mais en réalité, on agit de manière instantané, le jour du tournage.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui est réalisé par Abel Ferrara et Willem Dafoe ?
Non. I'm an extension of him.
Non, non, je suis une extension d'Abel Ferrara.
Une extension ?
An extension. In the sense that he's on that side of the camera.
Lui, il est d'un côté de la caméra.
I try to come to what he
Moi,
sees.
J'essaye de faire en sorte qu'il puisse voir ce qu'il veut voir.
Really
et j'essaye d'incarner le rôle.
Me,
et moi, ça me plaît bien de travailler comme ça, parce que pour moi, le jeu d'acteur, c'est pas une histoire d'interprétation. Il ne s'agit pas de montrer, il s'agit de faire des choses et de vivre une expérience avec suffisamment de transparence pour que le spectateur soit là à votre côté à mesure que vous vivez la chose. Et Abel, lui, quand il raconte ses histoires, donne toujours une dynamique formidable de contradiction. Il y a de la tension, et c'est formidable, ça. Bon, bref, j'aime beaucoup travailler avec Abel Ferrara.
Vous savez, ça me rappelle les films de Cazavetes, où on ne sait jamais où est la vraie vie et où est le cinéma. Vous êtes d'accord avec cette comparaison avec Cazavetes ?
A little bit, you know. The other day I was thinking,
oui, c'est drôle.
You know, in order to
L'autre
stay
jour,
calm
et je me disais la chose suivante.
And happy,
pour
and
rester
productive.
Calme, heureux,
Sometimes
productif.
I think, you
Parfois,
know,
je me dis
I treat life like it's a movie,
que il faut que je traite la vie
like
comme si c'était le cinéma. Et je traite le cinéma comme si c'était la vraie vie.
Because in life, if you have
Parce
that
que dans
kind
la vraie
of,
vie,
if you can cut your kind of attachment to
si
things being a certain way
se détacher de ce niveau d'exigence que l'on veut parfois, et si on arrive à créer son propre monde, eh bien la, vraie vie devient comme le cinéma, et par conséquent, il n'y a pas de raison d'être frustré ou insatisfait. La vie, il faut la vivre. Et au cinéma, si on traite le cinéma comme la vraie vie, on a une espèce de discipline, on a ce désir de donner sens à votre expérience. Et c'est ainsi que ce n'est plus simplement du divertissement. On s'implique vraiment dans ce qui se passe dans le contexte même du tournage du film.
Vous jouez un artiste à Rome, comme Ferrara, avec une femme, celle de Ferrara, et une petite fille, celle de Ferrara. Vous jouez lui, mais vous n'êtes pas vraiment lui, et vous restez Willem qui joue Abel. C'est compliqué, hein, tout ça.
Mais nous sommes relativement voisins à Rome. Nous sommes tous les deux arrivés dans cette ville à la même époque. On se sent tous les deux comme des immigrés. Nous avons chacun notre famille. Nous avons beaucoup à partager, en fait.
Et
donc, à un certain niveau, c'est assez intéressant de penser que je joue avec sa femme et sa fille, dans sa maison, dans son quartier, avec des gens du quartier qui ne sont pas forcément des comédiens professionnels. Et je joue des événements qui ont lieu dans sa vie, mais par ailleurs, c'est aussi de la fiction, de l'invention, c'est du cinéma après tout.
C'est drôle parce que dans son premier film Driller Killer, il jouait son propre rôle, Abel, d'un homme qui tuait les gens avec sa scie sauteuse. D'ailleurs, il n'hésite pas à jouer dans ce film-là. Il pourrait jouer lui-même plutôt que de vous demander oui à vous, Willem, de jouer.
That's a matter of opinion.
Oui, I love Abel, but he's a terrible actor. Abel, mais c'est un comédien lamentable. Hein.
He's a charming, wonderful figure,
oui, c'est un
but he's
type
not
charmant,
a very good
mais pas un très bon comédien.
Because he stands outside of it.
Parce qu'il se tient à l'écart.
He's a dreamer. He sees things.
C'est un rêveur. Il voit des choses. Je ne pense pas qu'Abel aime autant faire les choses que les voir.
Vous dites que vous avez improvisé sur ce film-là, mais improviser, ça ne veut pas dire inventer des dialogues. Ça veut dire construire ensemble des situations dramaturgiques, en fait.
Well, for example, there's a scene where there's a homeless guy.
Il y a une scène où il y a un SDF.
Very drunk and very angry, and he's screaming
out
the window.
Il est en colère.
This obviously
il
is an event that happened in his
bon,
life.
Ça, c'est un événement vécu, ça.
What was wonderful is I'm upstairs.
Ce qui est de merveilleux, c'est que moi, je suis à l'étage. Moi, j'ai jamais rencontré ce SDF.
He's not an actor.
Il est pas comédien.
And I start the scene.
Et je commence la scène au cinquième étage.
Talking to him from the balcony.
Et je lui parle à partir du balcon.
And then I leave the house.
Puis,
the camera follows
me. Je quitte l'appartement, je descends et je lui parle. Et c'est Abel qui m'a raconté l'histoire. Hein. Donc, je respecte ça. Mais évidemment, il y a un certain nombre d'éléments que j'ignore et il se passe des choses. Donc, la structure est chouette. Il m'a raconté l'histoire. J'essaye de la rendre à ma façon, mais en même temps, il y a des choses qui se produisent et je dois y faire face. Cet homme-là, je ne l'avais jamais rencontré. Et il se trouve que c'est un SDF, un type tout à fait charmant d'ailleurs, mais bon, complètement sous l'emprise de l'alcool. Et Abel s'est mis d'accord avec lui pour qu'il soit là pour la scène. Il est d'accord, mais d'abord il voulait l'argent. Donc moi, quand je joue, il n'arrête pas de dire et le fric, les 100 euros qu'on m'a promis sont où?
Get out of here. Come on, go. Get out of here. Get out of here. Just get out. Beat it. Come on, be on your way. Take your food with you. Go. Oh, my baby, she can't sleep. You're scaring the shit out of her. There, is it your baby? Where's sleeping? Upstairs, upstairs.
So, am I bothering with you?
You're bothering me.
It's true?
Yeah, it's true. It's true.
Keeping more anything.
Okay, Stacey. Yes.
So we made okay. Compromises.
Okay, you can sit down, but no more. Okay?
Yeah.
Mais ce qui est très beau avec cette scène, Willem, c'est que là où vous improvisez, et c'est magnifique, c'est que, ok, il y a ce SDF en bas. Il crie, c'est la situation. Vous descendez, mais c'est vous, Willem Dafoe, l'acteur, qui allez le calmer, finalement, cet homme, à la fin de la scène. Lui faire parler de lui.
Because that was so apparent. I mean, I always maintained that.
C'était assez évident, en fait.
You know, great directors make a world.
Les grands réalisateurs créent un univers. Et une fois qu'on est dans cet univers, on sait exactement ce qui doit se passer. Une espèce de logique, c'est même pas la peine de réfléchir.
He's there. What he presented me with wasn't. He was aggravated.
En fait, il était énervé. Mais en fait, c'était un type qui avait quelque chose de bon, de gentil en lui. C'était une rencontre intéressante, très chouette. Et moi, en fait, je voulais l'apaiser. Et lui, il voulait évidemment s'entendre bien avec moi. Alors que ça avait commencé dans le conflit. Hein. Et en réalité, ça s'est très bien terminé.
Non, parce que vous avez une idée assez géniale du jeu. C'est-à-dire que vous êtes contre un peu la méthode de Strasberg qui dit, voilà, quand vous avez une scène où votre mère meurt, vous allez chercher en vous, dans votre vie, etc. Vous, vous dites, non, je me sers de la personne maintenant, et cette actrice qui est en face de moi, elle meurt, et qu'est-ce que je ressens? C'est ça un peu l'idée ou pas?
You know, it's funny that you bring up that example.
Oui, c'est intéressant que vous preniez cet exemple.
My understanding of the method is
que la méthode, on l'appelle la méthode. Moi, j'ai une perception assez confuse de la méthode. Peut-être que je comprends mieux Stanislavski d'ailleurs que Strasberg. Mais bon, mais cette histoire de substitution,
it's fine if it works for someone.
C'est très bien si ça marche pour certains comédiens, mais ça marche pas pour moi.
Moi,
mon intention elle est plus directe parce qu'il faut faire semblant. Si vous pensez à votre mère lorsque vous regardez le personnage, eh bien, vous n'êtes pas dans la scène. Vous n'êtes pas auprès de cette personne-là. En même temps, il faut faire des choix. Vous faites des choix d'interprétation. Ah tiens, je vais être triste. Mais pourquoi? On pourrait être heureux après tout. Et on ne s'en rend pas compte avant de se mettre dans cet état d'esprit où on essaye vraiment d'imaginer les choses telles qu'elles sont. On essaye de voir la vérité. On essaye de se frayer un chemin, son chemin. Si vous avez un portrait psychologique que vous voulez présenter au public, pour moi, c'est autre chose et c'est trop limité. Il faut pouvoir se surprendre. Il faut pouvoir être surpris lorsque l'on regarde cette personne et on dit, bah, elle est en face de moi, elle est morte, qu'est-ce que je ressens? Et on essaye d'imaginer. Et à ce moment-là, on peut faire travailler l'intuition et on peut faire travailler tout un tas de choses que l'on ne maîtrise pas. On peut ressentir avec le cerveau et penser avec le cœur.
Par exemple, il y a des acteurs qui pourraient penser, tiens, je vais penser à mon chat qui est mort, donc ça va m'amener des larmes.
Yeah.
Oui.
And if that, oui. You know, it's all cut and paste, it's all problem solving. Just for me.
Coupé collé, hein. Il s'agit de résoudre des problèmes au fur et à mesure.
That's not what I'm interested in.
Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est vivre une expérience.
I don't want to deliver
a technique. Je veux pas montrer une technique.
I want to have something happen to me.
Moi, je veux vivre quelque chose. Je veux qu'il se produise quelque chose en moi, qu'il y ait un retentissement sur moi. Moi, je veux pas simplement servir un plat que j'aurais préparé.
There are degrees. There are degrees.
Alors évidemment, tout ça, il faut prendre avec des nuances. Parfois, on se dit, ah oui, ça, il faut que ça se produise. Et on essaye d'y parvenir au moment du tournage. S'agissant du film Tommaso, moi, j'étais simplement en situation de survie. Moi, j'essayais d'aller du début de la scène jusqu'à la fin de la scène.
Je voudrais vous demander un petit cours magistral, là, parce que je profite d'avoir un acteur américain avec nous. Dites-moi la différence, Willem Dafoe, entre Strasberg, Stanislavski et la méthode brechtienne, c'est quoi?
You know, I'm not sure I can do that.
Bah, je sais pas trop, à vrai dire.
As I said, I'm not clear about
encore une fois, mes pensées sont assez confuses par rapport à la méthode. Stanislavski, c'est une histoire d'action au pluriel. Hein. Voilà, on met en place des actions. C'est comme ça que je vois les choses, moi. C'est une approche très physique. Et les gens pensent toujours que c'est une approche émotionnelle, mais non. Brecht, maintenant, d'après ce que je sais, Brecht, ça consiste à simplement arriver à un certain niveau de clarté. Il s'agit de prendre une certaine distance qui vous permet de regarder la situation.
Sans psychologie.
comes in interpretation.
Moi, la psychologie, là, on est dans le domaine de l'interprétation. Alors que lorsque l'on agit, il ne faut pas penser à la psychologie, à mon avis. Je me répète interview après interview, ça devient un peu cliché, mais j'ai vraiment l'impression que parfois qu'avec une approche physique, on se sent plus comme un danseur que comédien. Les comédiens dans le théâtre occidental, ce sont des interprètes, ils ont un texte, ils essayent d'exprimer le texte, l'illustrer. Mais par rapport à la façon dont on vit aujourd'hui, c'est pas très utile, ça, à mon avis. Le cinéma, c'est une histoire de faire grandir l'expérience. Il faut arriver d'utiliser ce substrat, ce support, ce cinéma qui peut changer la façon dont on pense et dont on voit les choses.
Vous avez de la chance parce que vous êtes, vous pouvez tout faire. En fait, vous pouvez faire un film avec Abel Ferrara à Rome pour pas d'argent. Vous pouvez faire un film avec sur fond vert où vous jouez un monstre à quatre mains. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous êtes conscient de faire un film de super-héros et vous êtes conscient de faire un film d'auteur aussi.
Maybe I got dropped on my head when I was a kid.
Peut-être que je suis tombé sur la tête quand j'étais gamin. Je sais que je suis tombé sur la tête quand j'étais gamin, ça c'est sûr. Mais
every time I do a movie,
fois que je fais un film,
for the first time in the respect that every movie,
c'est comme si c'était la première fois.
Different
parce language,
different purpose,
le vocabulaire est différent, le but est différent, l'approche est différente, et il faut s'adapter à chaque fois, à nouveau. On en revient toujours à sa relation avec la vie et à la relation que l'on a avec les gens avec qui on travaille.
C'est marrant parce qu'une fois j'avais interviewé Denis Hopper, je lui ai dit mais pourquoi vous avez fait ce film stupide, je crois que c'était Waterworld. Il m'avait dit pour l'argent. Mais j'ai l'impression que vous, c'est même peut-être que c'est pour l'argent, mais c'est surtout pour exercer votre métier, quoi, d'une autre façon.
Ah, you know, look, I don't want to brag about anything,
but je vais pas me vanter, hein, mais
I think I was raised a Puritan in a capitalist culture.
J'ai grandi dans la culture capitaliste.
I don't want to do anything for money.
Dans un milieu assez religieux, you know, puritain. Phrase, you know, bon, je veux pas faire quoi que ce soit rien que pour l'argent. Parce que l'argent, évidemment, ça comporte des inconvénients.
You gotta trust that money will come.
Il faut bien faire son travail et l'argent viendra. On peut gagner sa vie de différentes façons, on peut vivre de différentes façons. Et après avoir fait un film, je me souviens de l'expérience que j'ai vécue. Mais à vrai dire, je ne me souviens pas du cachet que j'ai touché.
Même
si le dit cachet est trop faible ou trop fort. Et puis, quand je tourne à Hollywood, parfois, je passe un très bon moment, et puis j'adore côtoyer les gens qui font du cinéma. Mais mon mode de vie, c'est pas un mode de vie hollywoodien. Hein. Et moi, je me sens toujours un petit peu en marge. Je me sens un petit peu comme un nomade du cinéma. J'y prends du plaisir, mais je ressens également de la solitude. Parfois, quand Abel et moi, on travaille sur un film. On a des critiques positives, mais la distribution, je peux vous dire que ce n'est pas toujours de la tarte. Hein. Il a fallu 5 ans pour que Pasolini soit distribué aux États-Unis, alors que la réception critique et publique a été bonne en Europe et ailleurs.
Vous avez de la chance avec votre physique parce qu'il pouvait surprendre au début avec des rôles assez forts comme Tully Van Dyne et Alley ou même Sailor et Lula. Et puis vous vous révélez d'une grande douceur. Donc vous savez que vous pouvez surprendre avec votre physique qui peut paraître comme ça peut-être dangereux, mais derrière le danger, il peut y avoir beaucoup de douceur.
I don't know.
Je sais pas si j'ai de la chance.
That sounds good.
Oui, en fait, vous l'avez bien dit.
You know, I don't think about what I look like.
Non, à vrai dire, mon aspect physique, je n'y pense pas.
People think different things.
Some la vérité, c'est que chacun a sa propre perception. Il y a des gens qui disent que je suis un petit magnifique physiquement et d'autres qui trouvent que je suis un ladron. Hein.
Vous allez assez loin avec tous ces hommes qui sont des grands cinéastes. Ça peut être Ferrara, ça peut être Van Trier, ça peut être David Lynch avec Sailor et Lula. Vous allez très très loin, Willem Dafoe. Quitte à vous faire crucifier dans Tommaso, vous l'avez fait avec Scorsese, mais c'était un contexte et une histoire. Là, vous le faites en pleine rue à Rome. C'est quoi vos limites d'acteur, en fait?
I don't know. And every time you do that,
je sais pas, mais
you're not really thinking about that.
À chaque fois qu'on fait ça, on pense pas à ses limites. Hein.
You know, in some of this kind of role playing some of this inhabiting.
Lorsque l'on incarne des personnages, lorsque l'on joue, il y a des gens qui me disent que c'est dangereux, mais moi je ressens pas la chose comme
il
ça.
Il est où le danger? Oui, c'est dangereux.
You know, it's the danger of losing a sense of self.
Danger.
I'm very interested in that because
perte
I think
de son identité, la perte de soi-même.
You know, I like this idea of,
moi j'aime bien cette notion de l'illusion de la personnalité.
How we get through life
et
is having
dans le parcours de notre vie, on construit notre personnalité à partir de ce que l'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et notre vie consiste à protéger ce que l'on aime et à éviter ce que l'on n'aime pas. Moi, je suis allé au-delà de ça. Mais quand on fait des films, on a un aperçu de cela parce que c'est un environnement sûr dans lequel on peut penser de façon différente, dont on peut aborder les choses d'une façon nouvelle, inédite. Et quand on côtoie les autres, c'est pas la peine d'être fidèle à ce que l'on considère comme appartenant à soi-même. On peut être quelqu'un d'autre. Bon, ça semble un peu schizophrène et dangereux ce que je suis en train de dire là, mais c'est pas comme si c'était thérapeutique, mais c'est très puissant hein, lorsque l'on ne s'impose plus de limites.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement? C'est d'être crucifié par Scorsese ou d'être crucifié par Ferrara?
Those aren't difficult because wonderful opportunities.
Parce que c'est des opportunités géniales.
I always remember that when I was crucified,
quand j'étais crucifié chez Scorsese,
it was a particularly blue sky.
Le ciel était particulièrement bleu.
And I had never seen a blue like that.
Je n'avais jamais vu de bleu comme ça de ma vie.
You know, it's like a,
je me suis dit,
I don't know whether it's Pavlovian's the right word, but
je sais pas si c'est Pavlovien,
I maintain if I put you in that same position,
si vous,
you would have experienced
je vous mettais dans la même situation, vous auriez
so
vu le même bleu que moi. Donc,
you
ces crucifixions en tant que telles ne sont pas difficiles, ce sont des opportunités d'une grande beauté. Et si on les aborde le cœur ouvert, avec un état d'esprit ouvert, à ce moment-là, on peut vivre la chose et le public, par votre truffon, peut le vivre aussi. Donc, on se sent utile et c'est une façon de faire partie de la tribu, si je puis dire.
Willem Dafoe à l'affiche de Tommaso d'Abel Ferrara, mais également dans 4h44, Dernier jour sur Terre, New Rose Hotel ou Go Go Tells, actuellement reprise à l'affiche tous de Ferrara, et Dafoe encore chez Paul Schrader, notamment dans Light Sleeper ou Affliction. Paul Schrader, hommagé au Forum des Images.
À Paris.
Et jusqu'au 2 février. On se retrouve avec après Vampire Weekend pour parler des sorties.
Something's happening in the country, and the government's to blame. We got married in a gold rush, and the rush has never felt the same. Shared a moment in a cafe, shared a kiss in pouring rain. Well, we got married. Side of gold will always bring me pain. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby?
Girl,
you don't know by now. There's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down.
All that loving turned to hate.
We got married in a gold rush, and those wedding bells were ringing out our fate.
I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud.
Boy, who's your baby?
Girl,
if you don't know by now. There's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down.
The we're running out of time. Everything was ours, now it's just an empty mind.
Animals don't understand the words on the danger sign. For them it's just some shade from the morning shine.
I thought you might learn the language.
I thought you might learn to sing.
We were born before the gold rush, so why can't I remember anything? I wanna put things back together.
I wanna give, don't wanna take.
Time to disavow the gold rush and the bitterness that's flourished in its wake.
Et oui, on va attendre jusqu'au bout quand même. On va parler des sorties.
C'est joli ce qu'on écoutait.
Ben oui, très joli. Très. On va commencer par, pour ces sorties, par l'Apollon de Gaza, Laurent, de oui. Nicolas Vadimov. En 2013, une statue d'Apollon datant de l'Antiquité est trouvée au large de Gaza avant de disparaître dans d'étranges conditions. Œuvre de faussaire ou vraie bénédiction des dieux pour un peuple palestinien en mal d'espoir. Un film comme une enquête sur les traces de celles et ceux qui ont approché ce trésor national. Archéologues, trafiquants, collectionneurs et même un archevêque orthodoxe, parce que bien sûr tout le monde fantasme sur cette statuette vieille de 2300 ans. Et le cinéma, Laurent, lui, ben, il filme l'absence.
Oui, oui, c'est une enquête policière. Hein. Vraiment, ça se présente comme ça et c'est très très réjouissant. Parce que il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Et qui l'a trouvé, au fond, on ne sait même pas. Et il a été trouvé où? Dans la mer, c'est même pas sûr. Il n'a pas assez de petits coquillages dessus pour que ça soit vraisemblable. Dans le sable, on ne sait pas. Mais si c'est dans le sable, c'est pas Gaza, c'est en Égypte. Alors comment il est arrivé à Gaza? Par les tunnels, oui, par les tunnels éventuellement, parce que même des voitures y passent par les tunnels. Alors c'est possible. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur le marché? Et combien coûterait-il si il était en vente? Et de toute façon, il ne pourrait pas être mis en vente parce que c'est un bien commun de l'humanité. Enfin voilà, ça n'arrête pas de poser des questions, ça se renvoie la balle, ça doute et ça ne doute pas. Et ça, c'est très très bien fait, c'est très réjouissant. Je ne vous dis rien de ce qu'il faut en penser. Vous vous ferez vous-même votre opinion en allant voir le documentaire, parce qu'on en sort avec aucune certitude. Il y a quand même effectivement à la fin un religieux qui nous donne un peu certainement une clé extrêmement savoureuse, extrêmement malicieuse. Non, vraiment, ça vaut le coup d'aller voir cet Apollon de Gaza.
Autre documentaire, ça s'appelle Système K de Renaud Barret. Système K comme Kinshasa, au milieu de l'indescriptible chaos social et politique. Une scène contemporaine bouillonnante, créée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Renaud Barret, lui, à l'origine graphiste et photographe français, découvre la ville de Kinshasa en 2003 et ne la quitte plus jamais. En plus de son activité de cinéaste, il produit des musiciens congolais par le biais de la belle Kinoise Prod, son agence à Kinshasa. Il a mis 5 ans à faire ce film. Bouillonnant, énergisant, enthousiasmant, puissant sur ces artistes kamikazes, tous performeurs, parce que c'est une performance de vivre là-bas, à Kinshasa. À travers ces expériences d'art vivant et parfois extrême, se dégage un message politique très fort, l'idée de ne pas avoir peur de choquer pour emmener les gens, disent-ils, à un autre niveau, sans argent, sans travail, sans électricité, mais avec une grande inventivité. Mais comment font-ils ? En regardant ce film, je repensais aux performances d'artistes dans les musées qui paraissent à côté si fades, si froides, si intello, si prétentieuses, à côté de celles filmées dans Système K, des artistes sans horizon et, comme dit l'un d'eux, dont on attend un miracle. Mais le miracle, il est dans ce film.
Oui, c'est une belle suite à Bendabili. C'est une belle suite pour dire combien, effectivement, des artistes en milieu hostile, quasiment, en milieu pauvre, sont capables de transcender le monde, de transcender l'univers, de transcender aussi notre regard. Moi, parmi tout cela, j'en garde un en tête. Il s'appelle Congo Astronaute. Et Congo Astronaute, il s'habille d'une combinaison.
C'est trop.
Il se trimballe avec une combinaison faite de matières premières pillées
par les multinationales. Donc il y a aussi du politique, évidemment, dans cet art de rue. Et ça, c'est bigrement enthousiasmant.
Ça s'appelle Système K.
Oui.
Je ne rêve que de vous, qui marque le retour sur grand écran de Laurent Henman, un film avec Elsa Silberstein et Hippolyte Girardot. 1940, Jeannot Reschenbach abandonne mari et enfant pour lier son destin à celui tragique de l'homme dont elle était prise depuis l'adolescence, alors qu'il est menacé par l'arrivée au pouvoir des artisans de la collaboration. Elle traversera l'Europe et sacrifiera sa liberté pour épouser l'homme qu'elle aime au camp de Buchenwald où il sera enfermé. Et avec lui, elle survivra à cette épreuve. Cet homme, c'est Léon Blum. Le film lui est adapté du livre de Dominique Missika, Laurent.
Oui, oui, très beau livre, paru il y a une dizaine d'années maintenant, qui s'appelait « Lui, je vous promets de revenir », qu'on peut retrouver en librairie, il vient d'être réédité.
Ça c'est bien comme titre, c'est mieux que « Je ne rêve que de vous ».
C'est un titre en tout cas assez proche, effectivement, « Je vous promets de revenir ». Voilà, Dominique Missika, on peut le relire, il est à nouveau en librairie. Jeanne Reschenbach, c'est quand même un destin tout à fait singulier et extraordinaire, cette femme qui survivra à Léon Blum, mais qui choisira la mort par suicide elle-même pour ne pas devenir autre chose que ce qu'elle a envie d'être, et qui jusqu'au bout d'ailleurs refusera aussi les honneurs en ne se considérant pas comme dépositaire de l'héritage de Blum. Bref, c'est une belle figure. Le film en lui-même manque de moyens pour la reconstitution, je crois que c'est clair. Le casting est un petit peu, on va dire, inégal, mais ça reste un sujet passionnant, et c'est cela qu'on retient essentiellement de cette belle découverte de ce couple absolument singulier qui a traversé ce siècle tragédie. Ça s'appelle « Je ne rêve que de vous » de Laurent Henman.
Swallow, premier film de Carlo Mirabella Davis avec Halle Bennett, belle et fascinante. Elle joue Hunter qui semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari, qui vient de reprendre la direction de l'entreprise familiale. Mais dès lors qu'elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le PICA, caractérisé par l'ingestion d'objets divers, notamment des billes, des piles ou des punaises. Son amie et sa belle famille décident alors de contrôler ses moindres gestes pour éviter le pire, qu'elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad. Suspense psychologique et réflexion sur la condition féminine, avec des cadrages aussi stricts que l'architecture de la maison dans laquelle elle s'enferme, image clinique. Et quand elle sort enfin, cela devient plus intéressant, sauvé même dans la dernière scène. Le film commence vraiment, mais c'est dommage, il est terminé.
Eh ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense que ça commence très très bien, au contraire, c'est-à-dire qu'effectivement ce personnage, avec ce toc incroyable que vous venez de décrire très très bien, elle va jusqu'à ingérer des tournevis aussi. Hein.
Je préférais mais, voilà, de
donc c'est quand même costaud. Dans ce milieu absolument corseté, absolument patriarcal, absolument machiste, on voit bien que ce qu'elle fait, c'est essayer de s'en évader à travers ce comportement incroyable. Donc là, à ce moment-là, c'est oppressant, c'est glacé, c'est glaçant, et tout ça fonctionne très bien, et malheureusement, tout d'un coup, on nous donne une sorte d'explication psychanalytique, psychologisante, dont on n'a rien à fiche, en tous les cas, qui dynamite de l'intérieur le propos, qui était beaucoup plus angoissant, beaucoup plus inquiétant, qui était une sorte de petit personnage révolutionnaire, une sorte de bombe à fragmentation réelle sur la bourgeoisie environnante. Voilà, et ça n'est plus ça à la fin du film, et c'est bien dommage, mais quoi qu'il en soit, il y a un cinéaste derrière, ce Swallow.
Je répète, je préférais Safe de Todd Haynes dans le même genre de réflexion.
Ça s'en inspire bigrement.
Énormément même.
Oui.
Selfie, film à sketch réalisé par Thomas Bidguin, Marc Fitoussi, Tristan Arouette, Cyril Gelbla et Vianney Le Basque, addict ou technophobe, en famille ou à l'école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte le destin comique et sauvage d'Homo Numericus au bord de la crise de nerfs. Laurent, c'est une comédie satirique et grinçante avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Silberstein encore elle, ou Max Boublil.
Alors c'est effectivement une suite de sketchs écrits par un collectif d'auteurs qui a Selfie comme fil conducteur, hein, cette espèce de comportement moderne absolument incroyable. Ça démarre, mais c'est formidable, on se dit ça y est, Rizzi et sa bande, les Gassman et autres sont revenus, les monstres, les nouveaux monstres ont une sorte de suite française, on est halluciné, on se dit mais c'est pas possible, ça existe, mais tant mieux, ce premier épisode réalisé par Thomas Bidguin avec l'un l'impayable et l'incroyable Blanche Gardin, on est dans une sorte de méchanceté. Vous vous souvenez d'un sketch dans Les Monstres où il y a des parents qui vont vendre leur enfant à l'industrie du porno. Enfin, c'est de ce niveau-là. C'est formidable. Et ben, malheureusement, après, ça part absolument dans le n'importe quoi, dans l'improbable, dans le cliché, dans l'attendu, dans la comédie française, dans ce qu'elle fait de moins intéressant. Et on se dit, mais quel dommage que ce premier sketch ne soit pas à l'image du reste du film. C'est vraiment une occasion manquée de repartir avec cette comédie qu'on aimait tant, cette comédie italienne ironique et acide sur la société, en l'occurrence française.
Donc, selfie pour Thomas Bidguin.
Pour Thomas Bidguin.
Après avoir guetté le retour des loups dans les Alpes, dans la vallée des loups, son film précédent, Jean-Michel Bertrand va en suivre un jeune loup pour comprendre le fonctionnement complexe de tous ces jeunes, justement, qui traversent les montagnes et parfois les villes pour conquérir un autre domaine, quitte à affronter d'autres loups en territoire hostile. Et dans les magnifiques paysages, un livre de géo, les commentaires de Jean-Michel Bertrand, des réflexions bien senties sur la survie de l'espèce. Des images donc, et grâce à ces petites caméras cachées, des images assez incroyables de ces loups. On aime son obsession, un peu moins, moi je trouve, la musique monotone du film et quelques répétitions dans les actions. Le film aurait mérité un petit quart d'heure de moins.
Ah oui, je pense, ouais. Oui. Et puis bon, reste la polémique. Je pense qu'effectivement, les bergers qui vont voir le film vont pas être très contents. C'est une polémique qui ne s'éteint toujours pas, au moins en France. Elle est plus apaisée du côté italien, parce qu'ils ont su trouver, je crois, la façon de mieux vivre ensemble. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un sublime livre d'images.
Il a quand même rencontré un berger qui était pour...
C'est vrai, vous avez tout à fait raison.
Avec une image de troupeau absolument, mais merveilleuse, quoi. 12 000, premier film de fiction de Nadège Trébal, qui est aussi actrice dans ce film. L'histoire. Franck s'est fait chasser d'un casse automobile où il travaille clandestinement dans sa région. C'est la zone pas de travail. Bien que très attaché à sa vie avec Maroussia, il doit trouver du travail ailleurs, loin de chez lui. 12 000 euros. C'est la somme dont ils conviennent tous les deux, la somme qu'il devra gagner avant de revenir. C'est un peu le mythe d'Ulysse à l'époque moderne, une odyssée prolétaire, Laurent.
Oui, mais fondée sur l'égalité, parce que 12 000 euros, c'est ce qu'elle gagne, elle, par an, et elle lui dit, tant que tu n'auras pas gagné 12 000 euros par an comme moi, tu ne reviendras pas me faire l'amour. C'est à peu près ça que ça dit. C'est-à-dire qu'il y a un incroyable mélange entre l'égalité professionnelle et puis cette revendication amoureuse. Donc c'est un film à la fois marxiste et freudien. C'est ça qui est très très étonnant. Il y a un mélange sur l'argent et le sexe, c'est donné, c'est posé sur la table comme ça, avec des scènes physiques d'amour assez bien tournées, il faut le dire. Donc quelques moments de grâce, malheureusement quelques moments aussi de ratage, parce que on essaye un peu de faire de la poésie, le personnage qui fait des mimes pour gagner de l'argent, enfin, tout ça est un petit peu bancal, mais reste quand même un très très bel essai du donnant-donnant. Je te paye, on fait l'amour, mais on paye ensemble. Ça, ce discours-là, il est assez réjouissant et prenant à travers ce film 12 000 de Nadège Trébal.
Trois aventures de Brooke de Yuan King, c'est chinois. D'ailleurs, c'est une jeune chinoise qui voyage seule au nord de la Malaisie. Elle y vit trois aventures distinctes et comme parallèle, dont le point de départ est identique, par une journée de grande chaleur, perdue au bord d'un chemin, elle est victime d'une crevaison de vélo.
Sors de ce film, Éric Rohmer. Sors un peu vite de ce film parce que tu y es trop présent. C'est pas de ta faute, Éric. C'est la faute, évidemment, de cette jeune réalisatrice absolument paralysée par l'héritage rohmérien. Tant et si bien, d'ailleurs, que qui voit-on à la fin du film? Qui, la jeune actrice, rencontre-t-elle?
Pascal
Grégory, ah oui, bien sûr. Ça. Alors là, franchement, c'est donné sur la table. Bon, au moins, ça ne se cache pas. On n'est pas en train de se demander, mais quel cinéaste français est derrière tout ça? Non, non, on le sait. Et comme il y a en plus un autre cinéaste qui s'appelle Hong Sang-soo, qui est là aussi littéralement présent, pas physiquement, mais son cinéma est là, on dit mais quel dommage, parce que c'est vrai que cette héroïne, on a envie de la suivre, c'est vrai qu'elle est pleine de charme, c'est vrai qu'il y a quelques moments de grâce, mais tout ça est beaucoup trop référencé. Il faut impérativement que cette jeune cinéaste chinoise s'émancipe de toutes ces références.
Et on rappelle pour terminer 1917, on a largement parlé la semaine dernière, de Sam Mendes, pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. Deux jeunes soldats se voient assigner une mission portant un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats. Une grande expérience immersive et ce sentiment assez vertigineux d'avoir fait le voyage physique et mental avec eux. Allez-y. On parle de festival maintenant, Laurent.
Oui, et je vous emmène et nous vous emmenons à Angers jusqu'au 26 janvier. Ça a commencé hier. C'est parti depuis hier. Angers, vous savez, c'est le festival qui s'appelle Premier Plan. C'est un festival qui s'intéresse uniquement de façon obsessionnelle et belle au premier et au second film. On y verra, tenez-vous bien, 100 premiers films européens. C'est quand même pas rien. L'invité d'honneur cette année, c'est Raymond Depardon. Ouais. Avec en plus, à côté, cerise sur le gâteau, un focus sur les reporters au cinéma. Et Depardon sait de quoi il parle en la matière. Il y a aussi un hommage à Bellatar. La Sicile est mise en avant. Bref, si vous aimez le cinéma, si vous êtes à Angers dans ses environs pendant une semaine, et ben c'est là où il faut être, nulle part ailleurs. À Angers, Premier Plan.
Très vite, le Festival Télérama, parce que c'est vraiment bien, jusqu'au 21 janvier. 3,50€ la séance avec le pass. Et vous pourrez revoir notamment le trait de Martin Eden, où j'ai perdu mon corps. Chouette. Festival du film sur l'art au Louvre, Laurent.
Oui, jusqu'au 26 janvier, à l'Auditorium du Louvre, avec et autour notamment du très beau travail. Non, c'est pas un jeu de mots de Claire Denis. Vous savez qu'en matière de musique notamment, mais d'art plastique aussi, elle est une cinéaste éclairée.
20 secondes encore. Alors, Cannes 39 et la revue, revue et corrigée.
Et Cannes 39, 90, c'est une pièce de théâtre qui fait la part belle à l'histoire très intelligemment du Festival de Cannes. Vous la retrouvez bientôt à Antony, à Thonon et évidemment le 7 mars, où ça à Cannes, en situation bien sûr.
Et rappelez
et puis,
que...
je vous offre revue et corrigée, oui. Numéro
oh,
5. Belle, très belle maquette pour cette revue qui a pour sous-titre film classique, regard moderne. C'est une sorte d'amplification du Festival Lumière à Lyon, c'est-à-dire ça ne s'intéresse qu'aux vieux, mais non pas aux vieux films, aux beaux films d'hier.
Cannes qui a enfin choisi un président du jury noir. On va dire que c'est le premier président noir de tous les grands festivals, Laurent.
Oui.
Et il s'appelle Spike Lee. Il s'appelle Spike Lee. Merci à Laurent Thomas, merci à Pierre-Yves de Rolin, merci à Karine Durance et un salut très amical à Pascal à Angoulême. Générique de fin avec Willem Dafoe, bien sûr.
This program was inspired by cinema. It was filmed in sound, it's radio. The title music was written by Sporto Cantis. The songs have been chosen by Muriel Perez. Ophelia Vivier prepared the show. Claire Destacan directed. Christine Masson and Laurent Delmas produced and presented. And I, Willem Dafoe, was in it.